développement de la société humaine tout entière. Puis, nous voyons également, au passage, que Jésus n'est pas opposé aux joies légitimes et aux plaisirs qui peuvent exister dans cette vie terrestre. Bien sûr, la Bible est un livre sérieux qui nous amène à réfléchir aux grandes questions fondamentales concernant la vie, la mort, l'avenir de notre âme, et il y apporte des réponses. Mais, voyez, Dieu n'est pas opposé aux plaisirs légitimes de la vie, et même de la vie terrestre. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas opposé à ce que l'on se réjouisse lors d'un mariage, mais il était présent lors de cette célébration. Il a participé à la joie des conviés, il a participé à la joie des mariés, il a participé à la joie de leur famille. C'est bon de savoir que même dans notre vie quotidienne, nous pouvons avoir recours à Dieu et trouver en Dieu quelqu'un qui compatit, quelqu'un qui porte le regard et accorde de l'importance au plaisir que nous pouvons traverser dans la vie, comme aux peines que nous pouvons rencontrer, nous allons en parler. Puis enfin, le Seigneur Jésus-Christ se met à notre portée quand il s'approche de nous, quand il nous parle. Certainement, nous l'avons dit, ce miracle avait marqué les esprits. Les disciples qui y ont assisté se souvenaient encore. Jean va écrire, voilà le premier des miracles que Jésus a fait, quelque chose que les apôtres ont observé, dont ils se sont souvenus longtemps, cela a marqué leur imagination. Et finalement, Jésus a parlé ici à la conscience de tous ceux qui étaient au courant de ce qui s'était produit à travers des choses simples de la vie. Dieu nous parle parfois à travers les choses les plus simples. C'est à travers parfois les exaucements de prières concernant des choses banales de notre existence, bien que Dieu nous parle. Ne craignons pas donc de l'invoquer lorsque dans l'existence nous pouvons passer par une perplexité, une difficulté passagère qui a trait aux choses les plus banales de notre existence. Invoquons Dieu, il se plaît à y intervenir, parce qu'à travers ces choses parfois banales, Dieu se plaît à se manifester à nous, et son intervention, pour ce qui la concerne, bien nous amène à trouver, nous l'avons dit, des réponses aux choses les plus importantes et aux questions essentielles de la vie et même de l'éternité. J'ai relevé 5 pensées relatives à ce miracle que Jésus va accomplir ce jour-là pendant les noces de Cana. La première, c'est qu'il est possible que le Christ se trouve tout près de nous, dans certaines des circonstances de notre vie, sans forcément que nous en soyons conscients. Je ne sais pas si tous les convives de ce repas de noces étaient conscients que le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, se trouvait avec eux ce jour-là dans cette simple cérémonie, cette simple fête de mariage auquel il prenait part. Mais il était là. Il était là et il était là, prêt à manifester sa puissance. Il va la manifester, notamment dans ce glorieux miracle, l'eau changée en vin. Pour nous aussi, il est important de prendre conscience que, quelles que soient nos circonstances, Jésus n'est pas loin de nous. Un apôtre du Christ dira à ses auditeurs, Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Vous voyez, il est possible, dans nos circonstances actuelles, de le chercher, de le trouver, de l'invoquer, de nous adresser à lui et de trouver auprès de Dieu, auprès du Christ, une oreille attentive. Je vous assure que c'est une réalité. Dieu n'est pas loin de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et parfois, même si nous n'en sommes pas conscients, eh bien, il nous est possible de chercher auprès de lui non seulement une oreille attentive, mais encore un bras secourable. Ainsi donc, quelles que soient vos circonstances, approchez-vous de Dieu. La Bible nous apporte cette promesse qu'il s'approchera alors de nous. Bien des chrétiens qui sont présents dans ce territoire pourra certainement en rendre témoignage. Donc Jésus se trouve près de nous, parfois alors même que nous n'en sommes pas conscients. C'est un sujet d'encouragement, parce que même si notre cœur nous dit, bien, je ne ressens rien de particulier, néanmoins, la foi nous amène à prendre conscience que le Christ se trouve tout près de nous lorsque nous le cherchons. Une deuxième pensée, c'est que c'est une difficulté qui va être ici finalement à l'origine du miracle que Jésus va accomplir aux noces de Cana en Galilée. Pas une difficulté très, très importante, il faut relativiser les choses, il y a plus grave que ce qui s'est produit ce jour-là, mais quand même, lors d'une cérémonie de mariage, tout avait été organisé, et ce repas de noces, c'était important en Orient. Alors, on avait invité, de nombreux invités, de nombreuses personnes se trouvaient là, tout se déroulait bien, puis il n'y a plus de vin. Le vin vient à manquer, et l'ordonnateur du repas, est conscient qu'il va se produire là un incident. Les invités pourraient mal réagir. On pourrait parler de cette cérémonie par la suite en disant, vous voyez, ils nous ont invités, et les mesures n'ont pas été prises, les dispositions n'étaient pas là. Bref, c'était quelque chose d'embêtant. Et on va évoquer cette situation, et ça va parvenir, ça, aux oreilles de Marie, et c'est ça qui est important, ça va parvenir aux oreilles du Seigneur Jésus-Christ. On va lui faire connaître cette situation, et c'est lui qui va intervenir. C'est alors qu'on lui fait connaître cette difficulté, le vin manque, que le Seigneur va accomplir un glorieux miracle. On retient cette pensée que c'est parfois, on pourrait même dire c'est souvent, à travers des difficultés, que les hommes et les femmes se tournent vers Dieu. Pourquoi ? Bien, une partie de la réponse, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, c'est que le cœur de l'homme est souvent trop orgueilleux pour reconnaître son besoin de Dieu, pour reconnaître son besoin d'une intervention divine. Et l'homme, par nature, est séparé de Dieu. Il s'imagine qu'il va pouvoir faire son chemin dans l'existence, réussir par ses propres moyens, s'en sortir par ses propres forces, par ses propres ressources. Et parfois, il faut qu'une difficulté la frappe, il faut qu'une difficulté nous confronte pour que, voilà, on fasse l'expérience. On parvient à la conclusion juste que, non, dans les affaires de la vie, nous avons besoin, d'une manière ou d'une autre, de Dieu. Et si, quand bien même, nous n'aurions pas besoin immédiatement de lui dans les affaires de la vie courante, eh bien nous avons besoin de lui pour affronter les choses de l'éternité, la question de l'au-delà, l'avenir éternel de notre âme. Et ça, c'est bon quand le cœur de l'homme prend conscience de cela. Et c'est parfois à travers une difficulté que nous pouvons être amenés à en prendre conscience. C'est pourquoi Dieu permet parfois la difficulté. Et oui, non pas parce qu'il prend plaisir à nous contrecarrer, à nous contrer, bien au contraire. Il le fait parce qu'il nous aime et il veut que dans la difficulté, nous puissions nous attendre à lui, nous tourner vers lui. Il dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Et il ajoute cette promesse « Je te délivrerai ». Et c'est ça qui est important. « Tu me glorifieras », c'est-à-dire tu me rendras gloire. Lorsque tu me verras intervenir, quand tu me verras à l'œuvre, tu comprendras que je suis le vivant qui te voit, qui intervient dans ta vie, qui est capable de t'apporter les réponses dont tu as besoin. Nous l'avons dit pour les choses de ce monde et aussi pour l'éternité. Je me souviens de ce... Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je me souviens de cette difficulté que j'ai un jour traversée. J'étais alors... un croyant, mes grands-parents m'avaient souvent rendu témoignage de la bonté de Dieu, et je devais passer un examen au conservatoire de musique, et j'avais appris le mauvais morceau. Et pourtant, le professeur de guitare qui était responsable du jury, qui devait décider de l'admission des candidats au conservatoire, m'avait dit « Venez quand même, et jouez ce morceau de musique que vous avez appris, même si ce n'est pas le bon, et on verra bien ce qu'on fera avec vous. Oh. » Et je me suis retrouvé seul dans un petit appartement que j'occupais avec un ami. Nous étions colocataires, il était musicien lui aussi, il était parti ce soir-là. Et moi, il n'était pas question de me coucher trop tard parce que je passais l'examen le lendemain. Et je répétais dans un placard, parce que ça faisait du bruit, il ne fallait pas que les voisins l'entendent trop. Et le placard était couvert de boîtes d'œufs, les alvéoles retenant le son. Et voilà, ce soir-là, j'ai répété abondamment. Plus je répétais, plus il semblait que je n'arrivais pas à jouer ce morceau. Et là, ce soir-là, ce n'était pas prévu, ce n'était pas prémédité, dans mon placard, j'ai fait cette prière à Dieu. « Seigneur, si le Dieu dont mes grands-parents me parlent existe, je t'en prie, permets que j'aie cet examen d'entrée. » Parce que c'est important. C'est important. Si je ne l'ai pas, c'est encore un an de ma vie qui disparaît, qui s'en va. Et ça me paraissait vraiment important. Et alors, Vous l'expliquez, je ne le peux pas, mais je vous le raconte tel que je m'en souviens. Ce soir-là, je me suis couché avec une paix remarquable. Je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment, mais j'étais absolument convaincu que j'aurais cet examen. Et je me suis endormi comme un enfant. Pas question de me faire quelque inquiétude que ce soit. Voilà. Bref, le lendemain, je suis allé, j'ai eu l'examen d'entrée, je suis même entré au niveau supérieur que celui pour lequel je postulais. Le jury avait, paraît-il, jugé que le morceau était assez difficile pour qu'il me donne cette entrée. Et dans ma prière, j'avais dit, « Oh Dieu, si tu permets que j'entre, que j'ai cet examen, j'accompagnerai mes grands-parents à une réunion. » Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, Dieu porte le regard sur nous, même dans les petites choses de la vie. Ça m'a bouleversé, j'ai jamais oublié, même s'il a fallu ensuite bien des luttes et des combats pour que Dieu triomphe de mon cœur orgueilleux. Donc, une difficulté, Dieu peut la permettre parce qu'il nous aime, parce qu'il nous cherche, parce qu'il veut nous amener à l'invoquer pour intervenir dans notre vie. Puis une troisième pensée, ce miracle, l'eau changée en vin à Cana nous parle aussi de la toute-puissance du Seigneur Jésus. Quand l'eau a été changée en vin, ça va parvenir, ça, ce miracle, aux oreilles de l'ordonnateur du repas, ça va parvenir aux oreilles des disciples, des apôtres qui étaient présents, ça va parvenir aux oreilles de Marie, et tout le monde, tous ceux qui étaient au courant de ce qui s'est passé, ont été bouleversés et ont compris que c'était un miracle. Et ça montre ça qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu, que ce soit dans le domaine de la guérison divine. Ici, ce sont bien des lois naturelles qui sont complètement bouleversées, suspendues, c'était impossible. Il n'y a aucune explication rationnelle, physique, au sens premier du terme, qu'on puisse apporter à ce miracle, de l'eau changée en vin et en bon vin. Mais c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. C'est un miracle. Dieu est capable d'accomplir des miracles dans nos vies. Alors, on l'a dit sur le plan de la guérison divine, si nous étions malades, il est capable de le faire aussi en suscitant des circonstances de notre vie, en les maîtrisant, les disposant de manière qui dépasse parfois notre entendement. Il est capable, dans une situation familiale, difficile, inextricable, d'accomplir ce que personne ne peut accomplir. On a vu des gens qui étaient séparés, qui vivaient séparés depuis des années, et lorsque l'Évangile entre dans la vie de l'un, puis de l'autre, des foyers reconstitués. C'est comme une résurrection spirituelle. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il est capable d'apporter dans notre vie ce qui est tout à fait impossible sur le plan humain. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. On va en reparler, mais le vin dans la Bible est parfois le symbole, l'emblème de la joie. Alors, pas toujours. Il y a des passages de la Bible qui nous recommandent la modération en ce qui concerne sa consommation. Mais il y a d'autres passages qui nous montrent que, d'une certaine manière, Dieu n'est pas contre un usage modéré du vin. Et là, ça nous parle de la joie, une joie légitime, une joie pure. Et peut-être que quelqu'un était présent cet après-midi et pourrait dire, bon, ça fait des mois, des années que je n'ai pas connu de joie, que mon cœur n'a pas connu ce qu'est la joie véritable. Bien, Dieu est capable de vous la rendre, il est capable de transformer votre situation pour vous permettre de goûter à la joie. Rien n'est impossible à Dieu. Puis, une quatrième pensée, ces vases-là, que Jésus va demander que l'on remplisse d'eau et dans lesquels on puisera ensuite du vin, après que le miracle soit opéré. Ce n'était pas n'importe quel vase. C'était, nous est-il dit, des vases de purification, c'est-à-dire des vases qui avaient un usage religieux. Ils étaient consacrés, là, à des rites religieux de la religion juive. On peut parler trop loin dans le symbolisme de ce que la Bible nous dit. Mais, quelque part, oui, ils nous parlent de la religion, ces vases. Et là, ces vases remplis d'eau, alors qu'il n'y a plus de vin, on n'allait pas la distribuer comme ça aux conviés, hein, l'eau. Ils auraient dit, bah, écoutez, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça nous parle, finalement, de la religion qui nie. Sans la présence et l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ, elle demeure insipide, elle demeure inefficace. Même la religion pratiquée avec le plus de sérieux au monde, même la religion qui repose sur les fondements, je dirais, doctrinaux, les plus exacts, les plus rigoureux, elle n'apporte aucune joie au cœur, elle n'apporte aucune communion véritable avec le Dieu créateur, avec celui qui veut être notre Père céleste. Voilà les rites. Vous avez des gens qui pratiquent des rites religieux, et ils le font assidûment, ils le font sérieusement, mais ça ne leur apporte rien, leur cœur reste vide, leurs aspirations ne trouvent aucune réponse véritable. D'autres pratiquent une religion très sincèrement, ils s'efforcent de faire du bien à leur prochain, ils s'efforcent de respecter scrupuleusement ce qu'ils trouvent dans leurs ouvrages de théologie, mais encore une fois, il n'y a aucune vie véritable dans ces choses. On pourrait parler aussi de ceux qui, très sincèrement, s'efforcent de respecter ce qu'ils pensent être agréable à Dieu, mais n'y trouvent aucune joie, bien au contraire, n'est-ce pas, leur conscience finit par prendre, par être sensibilisée au fait que, comme un homme de la Bible l'écrit, quand ils veulent faire le bien, le mal est attaché à eux. Voilà, c'est ce qu'un homme de la Bible dira, c'est l'apôtre Paul. Il dira, je suis comme vendu au mal. Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, bien je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et ça, c'est une réalité terrible. C'est la réalité du péché. La Bible nous en parle, elle nous dit que le péché étant entré dans le monde, il y a un principe dans le cœur de tout homme, dès l'enfance, dès les premières années, dès les premières semaines, ce principe est à l'œuvre, et ça nous amène ce principe à pratiquer le mal d'une manière ou d'une autre. Je me souviens de cette femme qui était, avant de connaître l'Évangile, une femme qui cherchait Dieu. Et elle pratiquait dans la religion officielle ce que vous connaissez peut-être, la confession auriculaire, c'est-à-dire qu'elle se rendait régulièrement confessionnale et elle confessait ses fautes à un homme d'église. Elle le faisait sincèrement. Et avec un cœur bouleversé, elle disait « Voilà ce que j'ai fait, en acte, en parole, en pensée, et pour ça j'ai besoin du pardon de Dieu. » Et les paroles de l'homme d'église lui apportaient, je dirais, un certain soulagement momentané. Mais c'est cette femme qui le raconte elle-même. Elle disait « Quand je sortais de cette confession, il ne se passait pas quelques jours seulement pour que je retombe dans les mêmes travers, que j'agisse de la même façon. » Que je vois que les principes là que je détestais en moi agissent à nouveau et me conduisent vers les mêmes pratiques. Et quand elle a connu l'Évangile, bien non seulement elle a trouvé le pardon, l'assurance que c'est le poids de ses fautes était réellement pardonné, et ça aucun homme ne peut le faire. Hein. La Bible dit que le pardon se trouve auprès de Dieu pour qu'on le respecte, qu'on le vénère, qu'on le craigne. Et non seulement il a trouvé ça, l'assurance du pardon de ses péchés, mais il a été délivré de la puissance du mal. Ce qui était des liens qui l'entraînaient vers le mal, bien, ça a été rompu. Et il s'est mis à avoir la force de pratiquer ce qui était bon. Et le cœur de l'Évangile. Voilà. Non pas une religion qui assèche, qui n'a pas de goût, qui est insipide, mais une véritable relation avec Dieu qui est restaurée, qui nous permet de connaître véritablement la joie. D'expérimenter en nous la vie de Dieu. Christ, nous dit la Bible, est mort pour nos péchés. Ce Christ qui a accompli ce miracle glorieux à Cana devait mourir ensuite sur la croix. C'est pourquoi il est venu. Il s'est chargé de nos péchés. Il les a portés en son corps sur le bois. Il a été, écrira le prophète Ésaïe, blessé, brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il l'a porté en lui. Il nous a ensevelis nous-mêmes avec ce que nous étions dans le tombeau. Et alors, lorsqu'il ressuscite, bien c'est nous qui le ramène à la vie. C'est nous qui le ramène à la vie. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est une vie nouvelle, une possibilité de marcher en nouveauté de vie qui s'offre devant nous, qui s'offre à nous. Puis une dernière pensée, c'est le prolongement inévitable. Finalement, qu'est-ce qu'il nous montre ce miracle? Ils n'ont plus de vin. Le Seigneur demande à ce qu'on remplisse ces vases de pierre et d'y puiser. Et alors qu'ils ont été remplis avec de l'eau, c'est du vin, et du vin de qualité. Ça nous montre que l'Évangile, c'est un évangile de changement. Un changement vers le meilleur. Hein, puisqu'on dira au maître, mais tout homme garde... tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Oui, l'Évangile est un évangile de changement dans notre vie, Il apporte un changement vers ce qui est le meilleur. Puis vient un jour où le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, par Jésus-Christ, changera toute chose. Voilà. Notre terre qui est soumise aux aléas de la guerre, des conflits, de la détérioration, de toutes sortes d'aléas, bien, elle sera changée. La Bible nous parle de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, où la justice habitera, du règne de Dieu qui sera établi pour toujours. Alors, ça nous dépasse parce que la Bible même nous en parle avec des mots qui nous amènent à réfléchir à cette gloire, à cette beauté. Mais on ne peut pas l'imaginer. Il faudra le vivre et ce sera l'héritage éternel de tous les chrétiens. Il y aura un changement qui s'opérera. Il y a ces paroles dans le livre de l'Apocalypse où Dieu dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et c'est ce monde glorieux, ce monde où habitera la justice de Dieu, ce monde où la perfection sera installée, bien il veut nous en rendre participants. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, dès maintenant, nous vivions ce changement qu'apporte l'Évangile. Parce que rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Rien d'impur, ni de souillé, ni mensonge, ni impureté, toutes ces choses n'ont pas leur place dans ce royaume éternel. Il faut pour cela, pour que nous ayons notre place dans le royaume des cieux, que dès à présent, le Seigneur nous en purifie. Nous l'avons dit, c'est possible, c'est ce qu'il nous offre par Jésus-Christ. Et puis, en le faisant, bien nous y avons déjà fait allusion, Dieu transforme notre cœur, il change ce que nous sommes. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà, ça c'est glorieux. L'expliquer, c'est parfois difficile. Il faut le vivre. Et comment ? Et en nous approchant tels que nous sommes, avec notre misère, avec notre souillure, avec nos erreurs, nos manquements, nos souffrances aussi, du Seigneur Jésus-Christ, pour trouver auprès de lui, eh bien, le pardon, cette transformation dont nous avons besoin, voir s'accomplir de manière réelle, voyez-vous, ce dont nous parle ce glorieux miracle de l'eau changée en vin à Cana. N'aimeriez-vous pas que nous nous recueillions quelques instants et que nous approchions ensemble de Dieu pour lui donner l'occasion d'intervenir en nous. Merci Seigneur pour ta bonté, pour les projets que tu formes sur nous, ils sont excellents. Te bénissons de ce que l'Évangile n'est pas un recueil de philosophie,